moi, je suis très en colère de ce que j'ai entendu, mais je vais essayer de rester calme et de prendre sur moi. Je pense que je suis pas d'accord avec vraiment... Alors, franchement, moi, je suis passé par le milieu queer, j'en suis revenu, il y a plein de trucs qui ne parlent pas, et je pense qu'il y a moyen d'avoir des critiques sur les théories et sur ce que les gens portent dans ces milieux, mais j'avoue, je pense que dans ce que tu as dit, ça les met complètement de côté pour moi, et du coup, je sais pas trop par quoi commencer, mais je pense que ce qui divise plutôt la lutte révolutionnaire, c'est ce genre de théorie ou ce genre de propos, parce que pour moi, les camarades qui sont venus tout à l'heure, c'est des gens avec qui je m'organise. C'est des gens qui sont contre le capitalisme, contre l'État, contre tout un tas d'autres rapports. Et le fait de dire que le milieu queer, c'est forcément un truc qui peut se faire aspirer par le système et pas être critique de système, je trouve, de une, c'est faux. Et ça, c'est le cas avec toutes les luttes, soit identitaires, soit sectorielles. Mais du coup, c'est pas... les luttes féministes, tu l'as dit, ont les mêmes échos, les mêmes écueils. Et du coup, effectivement, il y a toute une partie du milieu ou du mouvement queer qui veut se faire intégrer, qui veut se faire récupérer. Mais il y a aussi toute une partie des gens qui sont contre ce système et qui sont contre ce monde qu'on trouve dégueulasse. Et du coup, de mettre tout le monde dans le même panier, de faire un amalgame et de dire « le queer, c'est forcément ça ». En plus, c'est un mouvement universitaire qui, en mettant de côté complètement le fait que ça soit porté à la base par des gens qui subissent aussi le patriarcat, parce que le patriarcat, il est subi par les personnes trans, il est subi par les personnes non-binaires, il est subi par les personnes intersexes, il est subi par les pétés. Et en fait, le limiter à... la classe des femmes qui subissent le patriarcat, et il est subi aussi par les mexis à plein de moments, et du coup le limiter à ça, moi je trouve ça dangereux. Et après c'est des trucs de pouvoir, de « ah bah nous on a plus de légitimité pour dire que le système il est merdique ou quoi », et du coup qui peut donner tendance à des propos que moi j'avoue m'ont un peu choqué. Par exemple sur le vécu des personnes trans qui genre subissent une oppression qui n'est peut-être pas exactement la même que le vécu des personnes assignées femmes ou je sais pas quoi, mais en tout cas dire que ne serait-ce que par exemple pour les parcours de transition, à quel point c'est le parcours du combattant, la croix et la bannière, j'ai l'impression que dans ta présentation ça fait comme si ça passait comme une lettre à la poste maintenant en France. D'avoir l'ALD en tant que personne trans, alors que c'est une bataille, faut passer devant des psychiatres, cocher les bonnes cases, faire semblant, jouer un jeu pour correspondre au modèle dominant que ces psychiatres entendent, ou je sais pas quoi, ou veulent que tu correspondes à ces modèles-là. Et du coup, effectivement, oui, il y a toujours une aspiration à l'intégration, mais qui existe partout. Et en tout cas, dire que c'est le fait d'être queer en soi qui ferait qu'il y ait une aspiration individuelle à la liberté et qu'en fait, les gens s'en foutraient du monde dans lequel on vit sans vouloir poser de critiques... des rapports sociaux ou en mettant ça complètement de côté, je pense que c'est faux. Et si le mouvement révolutionnaire est très peu fort ou a très peu de prégnance en ce moment en France, je pense que le queer n'en est pas l'excuse. Et qu'il y ait une individualisation de la société, que les gens ils se renferment sur eux ou sur... sur leur petite vie, leur petite bulle, ça c'est pas de la faute du queer en fait. Enfin, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Les luttes... on n'arrive pas à mobiliser, on n'arrive pas à rencontrer des gens sur des bases de remettre ce système complètement à plat. Et pour moi, c'est pas à cause du queer. Et si on pousse la logique... Par exemple, tu as parlé des luttes écologistes ou quoi. Les luttes écologistes, elles viennent diviser aussi... les rapports de classe, et il y a plein de mouvements ou de groupes écologistes qui mettent en avant les rapports de classe, et c'est pas pour autant que tu balayes les luttes écologiques d'un revers de main ou que tu fais un bouquin dessus. Et pour moi, toutes les luttes sont traversées par ça, et dans toutes les luttes, qu'elles soient identitaires ou non, il y a des gens qui vont chercher l'approbation de l'État et des institutions, et il y a des gens qui vont chercher autre chose, qui vont chercher la remise à plat de tous les rapports sociaux. Et ça, c'est le cas dans le queer, comme dans les luttes écologiques, comme dans le féminisme, comme dans tout un tas de mouvements. Et pour moi, ce qui est important, c'est comment tu vas te servir de ta base ou du commun que tu as pour réussir à dépasser et pour réussir à remettre en jeu plus que la base sur laquelle tu es parti. Et pour moi, ça, c'est... Enfin, je vois pas pourquoi le queer serait une spécificité par rapport à d'autres mouvements, ou à d'autres luttes, ou à je sais pas quoi. Ouais, c'est peut-être un peu confus, brouillon et tout. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs que j'avais noté, donc peu de temps. Ouais.
Tu as dit beaucoup de choses et comme j'avais pas j'ai pas noté tout, mais quand même j'ai pris la précaution dès le départ de dire que c'était des idées et pas des gens que j'attaquais.
Le fait quand tu parles à la fin, tu cibles des gens.
Non. Et j'ai parlé de la théorie queer et pas des queers. J'ai parlé, oui, du queer universitaire. J'ai bien fait gaffe à dire ça parce que il y a quand même ce qu'on appelle des théories queer. Donc ça devient un peu. Moi, je suis pas du tout une spécialiste du queer. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, je sais que, par exemple, le bouquin « Matérialisme trans » fait une critique assez sévère de la théorie queer sur un peu le même genre de choses que ce que je dis, sur le truc individualisé, sur que c'est la façon dont ça peut servir le marché. Il n'y a pas que moi qui dis ce genre de choses, et il n'y a pas que ni les anards, il y a aussi des trans qui disent ça.
Oui, et dans le féminisme et dans toutes les luttes, le marché peut
être récupéré.
Pourquoi le queer peut en faire un truc particulier, les opérations de chirurgie esthétique, par exemple.
C'est ce que j'ai dit, de toute façon. Mais tout ce qui est identité et tout, c'est évidemment un truc. Et il n'y a pas que les queers là-dedans. C'est tout ce qui est le marché, effectivement. Ils sautent sur toute fois qu'il y a quelque chose qui peut être l'occasion de vendre des produits, ils l'utilisent.
Mais n'en fait pas une singularité. Le marché récupère tout ce qui vient des luttes écologistes aussi. Je sais pas, il faut économiser l'eau, des ampoules écologiques.
Attends, t'es en train de faire un dialogue, elle parle bien du mouvement féministe. Féministe.
Je laisse la terminer, après tu interviendras.
Non, mais c'est bon.
Non, mais tu parles du mouvement féministe, c'est pour ça que tu parles du queer et du mouvement féministe.
J'ai pas noté.
Alors moi je l'ai lu ce bouquin de toute façon, mais et du coup je trouve quand même que le livre est un peu plus nuancé que ta présentation de début, qui moi m'a un peu fait bondir, entre autres sur les histoires que la fin du féminisme des années 80 et tout ça. On est quand même actuellement dans un moment où le mouvement féministe, pour moi, je trouve qu'il est à la fois riche, présent internationalement d'une manière très forte. L'Amérique latine, c'est quand même pas rien par rapport à ça. Que c'est complètement un féminisme populaire et lutte de classe, ce qui a beaucoup de retours en Espagne par rapport à ça aussi, et que dans ce féminisme-là, complètement populaire et lutte de classe, toutes les questions brassées par les histoires de transidentité, de queer et tout ça, elles sont dedans aussi. En tant que ça, mais aussi en tant que de lutte par rapport au capitalisme anticapitaliste et de lutte féministe. Et j'ai l'impression, enfin moi, la sensation que m'a donné un peu ce livre, c'est de quelque chose de... comment dire, d'être en dehors de ce qui se passe en ce moment, un peu. C'est-à-dire d'être décalé d'un mouvement qui nous brasse actuellement, avec toutes les exagérations qu'il peut y avoir, les caricatures qu'il peut y avoir, les choses comme ça, mais qui est aussi les poussées qu'il y a pu y avoir dans le féminisme des années 70 à d'autres moments. C'est-à-dire des trucs exagérés, des trucs qui sont revenus, des théories qui avancent, qui vont un peu loin. Et je trouve que dans ce cadre-là, ce livre-là, il est plutôt dans le ça va être un peu rêve, mais il est plutôt du côté réac que du côté mouvement, je dirais, dans ce sens-là. Et je dis pas, je suis pas forcément, moi je suis très en réflexion par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai pas forcément d'idées très claires et très carrées. Mais quand même, moi j'ai été interrogée par le fait que j'avais pas l'impression que ça contribuait justement au mouvement révolutionnaire et à l'émancipation, mais qu'on était plutôt sur du recul par rapport à ça. Et ça m'a quand même interrogée. Je le dis un peu de manière globale, en plus, je n'ai pas forcément d'argument point par point, je ne suis pas une grande spécialiste de toutes ces théories, mais c'est quand même quelque chose qui m'a interrogée.
Oui, moi je suis assez d'accord avec les deux interventions du public. Ce qui m'a un peu... Je ne suis pas spécialiste et je lirai le livre avec beaucoup d'attention, parce que moi je suis d'accord qu'il y ait une mise en garde sur toutes les théories qui sortent, je veux dire, faire gaffe, je veux dire, il y a des récupérations, etc. Mais après, tu as fait une introduction très intéressante sur les années 70, sur le mouvement féministe, où tu as bien décrit... c'est essentialiste, lutte de classe, radicale, etc. Et j'ai l'impression qu'on pourrait prendre cette grille-là. Par exemple, si on se baserait, par exemple, sur le mouvement homosexuel et le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui était quand même relativement interclassiste au début des années 70. Donc on aurait pu prendre, prétexte de ça pour dire que le mouvement homosexuel qui s'est développé dans les années 70, 80, etc., est un mouvement intégrationniste... visant à stabiliser le capitalisme.
Non, mais on ne pouvait pas dire ça. Non,
mais j'exagère, je caricature. Ouais. Mais j'ai l'impression que la même grille n'est pas reprise sur la situation actuelle. Et ça me gêne un peu, je veux dire. Après, moi, je trouve qu'il y a des aspects intéressants et que le débat est intéressant, le dialogue est toujours intéressant. Mais pareil, moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la critique théorique, universitaire, etc., et la réalité des choses. Je suis d'accord qu'on a, par exemple, pour aller dans ton sens, par exemple, je me souviens d'un appel à une manifestation, le 8 mars, il y a une manifestation donc, pour le droit des femmes, etc. Là-bas, il y a Toulouse, comme partout ailleurs, il y a des manifs radicales. Et je me souviens, il y a quelques années, l'affiche d'appel de la manif radicale, il y avait toutes les exclusions. Et moi, j'ai l'impression qu'avec d'autres, avec son dictionnaire, en disant qui exclut la manif, les cisgenres, les trucs, mais c'était, c'est caricatural. Je veux dire, ça, je suis d'accord d'interroger ça, de critiquer ça, de discuter de ça, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect trop unilatéral de rejeter tout ce qui me paraît, faire bouger les choses. Même dans ce qui est excessif, c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, moi, en général, à un moment donné, c'est faire bouger les lignes, c'est des fois être excessif.
Ce qui est excessif, c'est pas forcément dérisoire. Moi je suis aussi en contradiction, de réflexion sur cette réalité. D'abord, j'apprécie que ce débat ait lieu. J'apprécie beaucoup l'intervention du copain et je regrette uniquement l'intervention tout à l'heure que les personnes ne soient pas intégrées dans un débat critique qui est très très important. Parce que je crois aussi que notre idéologie révolutionnaire a besoin aussi de réfléchir sur ce qu'elle a été. Pendant très longtemps, toutes nos théories qui sont issues du mouvement de lutte des classes, du mouvement d'organisation ouvrière du 19e siècle, etc., demandent aussi à être revisitées et ont beaucoup de difficultés à l'être. L'ensemble des théories, la plupart des théories révolutionnaires, ont complètement nié l'intégration de ce qu'est le ressenti individuel dans la lutte collective. Le communisme étant quasiment présenté comme le sacrifice de l'individu au collectif, l'individualisme étant l'apologie de l'individu au contrario du collectif. Le communisme libertaire fait assez bien la synthèse des deux. Ça veut dire qu'actuellement, on ne peut pas balayer d'un revers de la main l'émergence d'une nouvelle critique du pouvoir issue du colonialisme, issue de la répression individuelle, issue de pressions raciales, qui ne sont jamais prises en compte dans la théorie révolutionnaire. L'idéologie, le comportement pour qui a fréquenté les mouvements libertaires en étant jeune, c'est un mouvement profondément patriarcal, hein, profondément conservateur dans ses mœurs. Il a fallu le mouvement Mujeres Libres en Espagne pour, du point de vue des femmes, affirmer cette réalité contre la doxa libertaire, contre la doxa des organisations libertaires qui sont censées être les plus évoluées. C'est pour ça que je suis moi très sensible à l'écoute des revendications. Il n'y a pas de revendication qui, à un moment donné, ne s'affirme pas pour un coup de poing sur la table. C'est pour ça que je veux dire, l'extrémisation, la ridiculisation d'un discours, elle est nécessaire pour se faire entendre. Parce que si on ne tape pas sur la table, on ne se fait pas entendre. Effectivement, c'est les gens qui ont ce sentiment qui est exprimé par le mouvement queer, par le mouvement homosexuel, par le phare. Le phare qui n'était pas une réelle, qui était une rupture classiste par rapport au mouvement homosexuel traditionnel. Moi, j'y suis particulièrement sensible et je pense qu'il faut profondément intégrer ça, hein, à notre réflexion, que ce mouvement intègre notre réflexion. C'est-à-dire qu'on a énormément intérêt à se remettre en cause par rapport à ça. C'est une réalité exprimée par des gens qui est une nouvelle expression de l'oppression ressentie et qui doit être reliée effectivement aux luttes globales contre le pouvoir. Et que tout ce qui est effectivement intégration au pouvoir, et j'ai absolument d'accord à ça, elle traverse tout le milieu, elle traverse le syndicalisme, elle a traversé le mouvement libertaire, elle traverse tout cette tentation de l'intégration de la rupture. Ce n'est pas spécifique à ce mouvement-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En m'excusant d'avoir parlé, parce que j'ai pas le droit.
Ouais, je vais peut-être dire quelques...
Non, derrière.
Je m'assieds.
Excuse-moi.
Pour te répondre, Marianne, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis concernant l'Amérique latine, qui fait rêver beaucoup en Occident et tout, ça c'est sûr. C'est un féminisme populaire et lutte des classes. Le phénomène des coordinations, j'en ai parlé dans le bouquin, les coordinations, elles sont très différentes d'un pays à l'autre. Et celle qui pose le droit à disposer de son corps, qui revendique le droit à l'accès à l'avortement et tout ça, c'est plus dynamique, c'est vraiment celle. Et celle qui se battent, comme au Mexique, sur contre les féminicides et tout, bon, mais on est sur des réalités de classes différentes pour moi. Sinon, je ne rends pas du tout responsable les queers de tous les mots. Ça m'est revenu dans ce que je n'avais pas noté. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'erreurs et de conneries. Il n'y a pas de problèmes qui ont été faits par le mouvement révolutionnaire, par les organisations, même par rapport dans les années 70. Là, j'ai parlé un peu des organisations d'extrême gauche, ou chez les libertaires aussi, hein, chez les anarches. Ce n'était pas du tout évident de faire passer la lutte féministe. Hein. C'est là-dessus, c'est évident. Je rends pas les queers tout seuls responsables de tous les maux de la création. Même si je donne cette impression, désolé quoi. Mais je suis d'accord, j'entends bien le truc par rapport à faire, et ça me paraît très important, que la dimension individuelle elle soit prise en compte. Moi, je suis communiste libertaire parce que à la fois l'individu et le collectif m'intéressent. Les deux dimensions sont nécessaires. Sinon, on tombe dans des régimes communistes soviétiques ou des choses comme ça, si on ne prend pas en compte l'individu. Les anarches, il y a quand même cette dimension-là qui est importante, même si après, ça ne suit pas toujours, quoi. Je pense qu'il y a vraiment nécessité de prendre en compte pour aller vers des sociétés émancipées, enfin ces deux dimensions-là, de l'individu et du collectif, de la société, quoi. Et c'était un peu le projet du livre, juste. C'est que j'avais envie de faire une réaction par rapport à des trucs où, à force de parler que d'individus, eh ben, on tombe dans l'excès. Et que donc, il faut revenir sur ces questions-là et réfléchir à ça. Moi, c'est vraiment... je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. À un moment donné, on affirme un truc et c'est exagéré, mais il faut reparler, remettre les choses à plat. Et moi, plusieurs fois, c'est marrant, mais des gens que je ne connais pas du tout, ils m'ont dit que le bouquin, ils avaient trouvé ça bien parce que ça mettait les pieds dans le plat. Et je pense que ça fait des années qu'on est dans des milieux militants où il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui étouffent un peu et qui ont envie que des choses sortent. Et c'est là-dessus, les gens qui m'ont dit ça, ils n'étaient pas forcément d'accord avec moi surtout, mais au moins ils avaient envie que, paf, il y a quelque chose comme tu balances un caillou dans une flaque, quoi. Voilà.
Bon, j'ai pas trop le sentiment quand même qu'on ait de telles difficultés à s'exprimer, sauf franchement, ben, ça c'est quelque chose sur lequel moi je... Oui, il y a eu des... Alors, il y a des manières de faire qui sont de toute façon de la merde à peu près partout, quelle que soit la manière dont elles s'expriment, c'est-à-dire empêcher les gens de parler, brûler des bouquins, tout ce genre de trucs, on est d'accord. Par contre, il y a aussi, et ça continue à exister, des discours dominants ou des discours plus faciles à tenir, parce qu'ils sont pas forcément dans l'air du temps, mais qui sont historiquement déjà admis, et ceux-là, généralement, ils ont la place, globalement. C'est pas les... j'ai envie de dire, et y compris dans les milieux militants. Je pense pas, c'est pas très compliqué de s'exprimer pour un certain nombre de gens dans des discours classiques, je dirais, les libertaires aussi. Ensuite, j'avais eu le temps qu'à faire, on revient sur les histoires de féminisme. Là aussi, c'est une interrogation par rapport à ce que tu disais. Enfin, moi, la question de dire que... Enfin, le matérialisme, la manière dont ça a toujours été un souci entre essentialisme et matérialisme dans le mouvement féminisme. Et il y a un petit côté, alors je pense que j'avais un peu du mal à expliquer ce que je veux dire, mais il y a un petit côté essentialiste dans le fait de rendre d'une manière relativement obstinée l'idée que les femmes, c'est parce qu'elles ont un utérus qu'elles peuvent faire des enfants. Qu'elles sont opprimées. Alors, c'est vrai historiquement, probablement, chasseurs-cueilleurs et tout ce genre de choses, mais enfin, on est quand même maintenant un certain nombre, dans certes des milieux, mais beaucoup dans les milieux militants et occidentaux, à ne pas avoir de femmes, à ne pas avoir d'enfants et à ne pas avoir une vie de femme telle qu'elle est, écrite, ce qui ne nous empêche pas d'être opprimées. Alors, est-ce que c'est uniquement... c'est quand même une interrogation, ce qui me concerne. Moi, le fait de dire les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est ça que ça voulait dire aussi, à un moment donné. C'est-à-dire que... c'est-à-dire, à partir du moment où elles ne sont pas mariées avec un homme, où elles ne rentrent pas dans la catégorie de la personne mariée qui fait des enfants et qui s'occupe de la maison... Est-ce que c'est encore des femmes? Donc,
c'était pas dit comme ça, c'était affirmé comme ce n'est pas plus des femmes.
Eh bien oui, mais c'est un proc.
Oui. C'était
c'est
affirmé
aussi,
comme
c'est
ça.
C'est aussi pour que cette question-là se pose à un moment donné. Donc, du coup, la question d'en faire l'obligation et la base, et puis en plus, après, oui, d'accord, c'est la base de l'oppression, mais ça pourrait être les yeux bleus aussi, dans ce cas-là, et ça n'empêcherait pas l'oppression.
Non. C'est pas...
Pourquoi ça pourrait pas être les yeux bleus?
Parce que c'est la reproduction de l'espèce qui est en jeu dans ce truc-là, au niveau du système patriarcal.
On n'est pas forcément là, ouais. Enfin, ça non, d'accord, non. Mais enfin, là, dans la réalité actuelle du monde, on est avec...
De l'Occident, de certains pays.
Et je voulais aussi dire un autre truc, parce que alors là, complètement rien à voir. Ouais. Je repars sur mon histoire de mouvement des femmes et tout. Je ne pense pas que le mouvement, que l'apparition de MeToo soit un épiphénomène de classe moyenne... et de capitalisme et d'ultralibéralisme non plus, par exemple. Et je pense que c'est quelque chose d'important aussi qui peut se passer à ce niveau-là, et qui n'est pas rien. Donc, que c'est pas qu'une question de discours. Je suis pas douche, mais j'ai plein de trucs qui me viennent à l'esprit en même temps. Et après,
non, je vais réagir à ce que tu as dit, Marianne, parce qu'en fait, on n'arrête pas de penser que les femmes font moins d'enfants. En fait, on l'a bien étudié. Quand les femmes faisaient 6 ou 7 enfants, il y avait une proportion de 15% de femmes qui ne faisaient pas d'enfants du tout. Les tantines, les vieilles filles, etc., les instits. Or, aujourd'hui, dans nos sociétés, 80% des femmes font un enfant ou deux. C'est-à-dire que la maternité s'est totalement développée et qu'elle devient vraiment une existence féminine ou une existence de couple aujourd'hui. Nous, on voit nos réalités de comment on est nous et comment on se côtoie, mais les chiffres sont têtus et ils disent exactement l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont mères aujourd'hui qu'au début du siècle. Et je pense que ça, c'est important parce que même si on base l'exploitation des femmes ou du sexe sur le ventre des femmes, c'est vrai que c'est une appropriation du ventre des femmes, mais elle n'a pas dit que le ventre des femmes, et c'est vrai, il y a l'élevage des enfants, il y a, que ce soit les tiens ou pas, il y a le travail domestique gratuit, la reproduction donc du travail. Et moi, ce que je pense, c'est que les problèmes d'identité tels qu'ils sont posés. Alors, je rejoins en plus Paul, parce que moi aussi, j'ai été dans ce cas-là, j'ai été dans un tract où il y avait... hélas, il venait du Chiapas, ce tract-là, hein, à l'époque. Et il déclinait toutes les identités possibles de validisme ou pas, de cis, etc. Et j'ai dit, mais je me mets où, moi? Je suis où? Alors, je cherche la case. Je suis valide, je suis femme, je suis blanche, etc. Ah bon, il y a une multiplicité. Et ça, je pense que ça, non seulement elle dit ça individualise, moi je dis ça différencie, mais dans un sens de division quand même. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un but commun. Le but commun, c'est d'être anticapitaliste, c'est de casser ce système qui nous emmerde et qui nous opprime. Et je crois que ça, c'est oublié. Alors à un moment donné, il y a des gens qui avaient des rêves, hein, le rêve communiste, le rêve de l'Est, il y avait des rêves. Paraît-il qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative, on n'a plus de rêve. Alors le seul rêve, c'est... que moi, dans ma peau, je me sens bien, etc. Mais si je me sens bien, je serai aussi le dominateur de quelqu'un d'autre. Je serai aussi, si je ne remets pas en cause le système dans son ensemble, je ne remets pas en cause l'oppression et la domination. Et c'est ce que je voulais illustrer sur l'histoire de la maternité. On n'a pas remis en cause le fait que les femmes fassent des enfants. Bien au contraire, il y en a de plus en plus.
Deux choses, juste pour compléter sur cette question des enfants, par rapport à ce qui a été dit juste avant, je pense que s'il y a quand même un danger dans la question de l'analyse de la domination matriarcale, à évacuer totalement la question type de l'analyse matérielle de sur quoi repose cette domination, et pour le coup, dans la présentation, elle n'a pas fait reposer que sur l'aspect de la procréation, elle l'a fait aussi reposer sur l'aspect de la reproduction, on va dire... de la vie et du prolétariat, tout ce que tu veux, sur le, là pour le coup c'est pas assimilable juste aux tâches ménagères.
qu'il a quand même un rôle à attribuer dans la reproduction de la vie de tous les jours, qui n'est pas que un marché capitaliste et qui a une évidence à l'échelle internationale. Et sur la question de la procréation et de la fertilité, on va te dire, oui d'accord, il y a des femmes font peut-être moins d'enfants à l'heure actuelle dans certains pays du centre et compagnie, mais à l'échelle internationale, faut pas déconner. La femme, elle sert aussi dans ce rôle-là de l'immigration, de l'arrivée de main d'œuvre, etc. Et c'est une réalité. Les politiques natalistes, elles existent un tant soit peu de manière très concrète en régime capitaliste dans deux critères. Est-ce qu'il y a intérêt à une immigration d'un prolétariat vers un pays du centre, ou est-ce qu'on est en situation de guerre? Et comme on le voit à l'heure actuelle, toutes les politiques natalistes sont en train de ressurgir, et donc avec des conséquences réelles sur la condition des femmes, c'est évident. Ensuite, je pense sur l'autre partie qui a été abordée avant, évidemment, je pense qu'il n'a jamais été dit qu'une théorie, une idéologie vient empoisonner quoi que ce soit. De toute façon, ça se joue pas sur des réalités comme ça. Par contre, si les choses sont aussi exacerbées et la pauvreté du débat elle est aussi intense sur ces questions-là, c'est parce qu'il y a eu un vrai tournant quand même. Enfin, dans le milieu dit radicaux en France, il faut arrêter de déconner. C'est vrai dans d'autres pays, mais il suffit de regarder n'importe quel site. Dire représentant le milieu radical dans n'importe quelle ville en France pour constater que ce changement il s'est quand même opéré. Et ça concerne autant la question du patriarcat que tout un tas de sujets annexes autour d'identité. Il n'y a plus que ça. Enfin, je veux dire, la première chose qu'on te demande dans les milieux radicaux aujourd'hui, quand tu démarques, c'est quoi ton identité, qu'elle soit sexuelle, raciale ou je ne sais quoi, ou de validité ou j'en sais rien. Et c'est vrai sur la multiplicité des articles. On ouvre IATA aujourd'hui sur Toulouse, je suis désolé, il n'y a aucun article social. C'est une disparition totale de ce sujet-là. Et dans les milieux anarchistes ou communistes se sont évaporés sur la perspective du changement social. Il reste la question du changement individuel. Donc après, on peut dire que le postmodernisme, c'est une attaque vulgaire. Il n'empêche que c'est un changement réel et profond dans les milieux radicaux. Enfin, on peut évacuer le sujet tant qu'on veut, mais...
J'essaierai d'être un peu court. Déjà, merci, j'ai pas lu le livre, je ne sais pas si la présentation est plus imprécise, voire vu que ça sera dans le bouquin. En tout cas, moi, je suis content d'avoir l'occasion d'écouter une présentation, d'écouter des reculs, réactions. Moi aussi, je regrette qu'il n'y ait pas plus de personnes qui soient restées. Peut-être pour commencer, en essayant quand même d'être court, moi, j'ai un souvenir précis. On est en septembre ou octobre 2017, et il y a une manifestation pour défendre le droit à l'avortement à Toulouse, là devant la Grave, je crois. Et j'avais des copines qui tenaient une banderole dans laquelle il était indiqué pour l'avortement, avortement pour tous et toutes, et pour les personnes transgenres et non-binaires. Et j'ai ce souvenir précis, je le raconte là vite fait, mais parce que donc je vais voir les porteuses de banderoles en leur demandant qu'est-ce que c'est les personnes non-binaires. Et bon, c'est des personnes qui ne sont pas là ce soir, je ne vais pas balancer. Et c'était stupéfiant, puisqu'il n'y avait personne, il y avait des liens d'amitié. Donc vraiment, en toute honnêteté, personne n'était capable de me dire ce que portait la banderole qui était portée. Je raconte cette anecdote, pourquoi? Parce que ben, moi aussi, j'ai constaté ces dernières années, là je rejoins peut-être l'intervention qui précède juste, ça fait quelques années qu'il y a une série de termes qui sont portés fortement, qui forment pas forcément une théorie. C'est assez souvent, malheureusement, quand on s'y intéresse, il y a des choses passionnantes à creuser, mais c'est souvent présenté un peu comme des mantras et qui sont souvent là. En tout cas, moi, j'ai plutôt vécu comme des choses qui amènent à exclure des personnes, à créer des légitimités. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses à creuser, mais pratiquement, dans un certain nombre de milieux militants ou des gens qui le sont devenus, ça fonctionne comme... un truc un petit peu à vide. Ça a amené plein de gens à s'intéresser au féminisme, ça a amené plein de gens à s'intéresser à des choses que moi je crois importantes, et tout ça est très bien, mais de la même manière que des fois on dit faut taper du poing sur la table, et je pense que c'est ce qui a été fait dans ces années-là, autant je suis content que quelques années plus tard, peut-être j'entende à droite à gauche que des gens prennent la peine, comme tu l'as fait, prennent la peine, comme font les gens du CRAS, d'organiser un débat, alors que bon, manifestement, tout ne se fait pas dans la plus grande sérénité, prennent la peine de réfléchir un petit peu, parce que j'ai l'impression que parmi les idées qui sont véhiculées à travers ces mots, il y a des choses où qui nous permettent pas de lutter contre des choses qui se profilent. Voilà. Et que ça soit sur des questions de politique générale, de perspective où on peut aborder la question de l'aménagement capitaliste du territoire, ou y compris la question de la défense du droit à l'avortement, on pourrait faire la liste comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, c'est des mots et c'est des termes qui nous protègent pas et qui, en fait, alimentent des rituels et des manières de parler un peu inoffensives. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et peut-être pour terminer, j'essaie d'être court, moi, ma grande passion, c'est le langage et surtout, le langage audiovisuel. Et parmi les choses que je fais dans ma vie, j'essaie de regarder plein de trucs, des films et des séries, pour comprendre d'où viennent l'histoire des représentations. Et récemment, là, il y a 2-3 ans, je m'étais penché sur l'histoire de la transidentité au cinéma, et j'étais fasciné de voir que quand j'essayais d'exposer plus maladroitement, beaucoup plus maladroitement que tu ne le fais, une manière de mettre ça en histoire, en disant « ça vient de quelques endroits, à une époque on appelait ça autrement, mais il y avait quand même des contenus politiques », de voir à quel point j'arrivais pas à créer des dialogues avec des personnes qui venaient là pensant que j'allais leur servir, je le dis un peu en vanant, mais la soupe habituelle, quoi. Alors, c'est pas des gens avec qui j'étais hostile, mais en tout cas, j'ai essayé d'amener ou de co-construire un truc un peu historique en étalant aussi tout ce que je savais pas, et j'y arrivais pas. Donc je suis content de voir que, bah, malgré tout, une réunion comme là ce soir, ça amène des gens. Je pense que si on refait ça, peut-être les copains et les copines qui sont venus tout à l'heure auront peut-être envie de rester la prochaine fois, parce que je pense qu'on a des trucs à digérer, en fait. Et ça fait en effet quelques années qu'il y a des choses qui tournent un peu à vide.
Moi, je suis pas en désaccord avec les deux interventions d'avant. Moi, je pense qu'il y a effectivement des choses qui ont bougé, enfin que les théories queer ou les théories féministes ont quand même pu faire avancer pas mal de choses dans les milieux révolutionnaires, anarchistes, libertaires, ou je sais pas quoi, mais que aussi ça. C'est revenu figer tout un tas de trucs, c'est revenu remettre au centre un truc d'autodéfinition individuelle qui est très compliqué à critiquer, et que moi, il y a plein d'écueils de ces milieux-là, où il y a plein d'écueils de ce qui est porté, qui ne me vont pas, que je critique, et que pour moi, ça prend trop de place. Et du coup, je trouve ça bien de pouvoir le discuter et de le poser. Mais pour moi, le problème, c'est de vouloir essayer de généraliser ou de dire que la majeure partie des gens ou tous les gens portent ce genre de discours, et c'est faux. Et en fait, moi j'ai survolé le texte qui a été distribué tout à l'heure. En fait, ce que disent les personnes dedans, c'est qu'il y a plein de trucs qui ne nous vont pas dans ces théories, dans ce qu'elles induisent, et comme dans le prétexte que ça sert à exclure, comme tu disais, ou à pas expliquer, ou à ce que ça soit des évidences, et pour moi, c'est problématique. Mais il ne faut pas généraliser. En fait, il y a plein de gens qui portent autre chose, qui portent d'autres discours et qui sont critiques de ça. Et je pense qu'il faut voir que ça existe, et il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Et du coup, voilà, moi je trouve, de ce que j'ai survolé du texte qui a été distribué ce soir, bah, je trouve qu'il amène des éléments et des clés de compréhension par rapport à aussi ce que vous venez de dire. Et je pense qu'il faut être ouvert à ça et vraiment pas généraliser, quoi.
Moi, c'est juste un ressenti, un vécu, une petite anecdote, par rapport justement à certaines luttes qui nous amènent à faire parfois le contraire de ce qu'on pense. Alors c'était à Toulouse, il y avait la manif pour tous, et donc il y avait des appels pour faire une contre-manif pour tous, et donc les amis m'ont dit « tu viens ?» Et je dis « mais je peux pas venir !»
Un, il fallait que je manifeste pour un projet de Hollande, c'est-à-dire fallait que je soutienne le projet du gouvernement qui voulait légaliser le mariage homosexuel. Alors, donc, un, je ne soutiens pas, je ne fais pas une manif pour soutenir une décision gouvernementale. Et deux, moi, le mariage, je ne suis pas, hein, donc je ne vais pas manifester pour demander le mariage. Et de plus, quelqu'un manifeste, parce que les gens de la manif pour tous, eux, ils manifestaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce projet. Je dis donc, moi, à chaque fois que je vais manifester, que je ne suis pas d'accord avec un projet gouvernemental, les autres en face pourront venir manifester pour m'empêcher de manifester. Moi, ce n'est pas comme ça que je voyais la liberté d'expression. Et donc, parfois, on est piégé. Hein, et là, j'ai dit non, je ne vais pas à la contre-manif pour tous. Parce que franchement, c'était à l'envers de tout sur lequel je luttais depuis toujours et je lutte encore.
Enfin, je pense que Chantal, la question du mariage pour tous, c'est pas imposer le mariage à tout le monde, c'est donner la capacité aussi à des gens de ne pas vouloir se marier, même s'ils en ont le droit. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que
c'est
pour moi c'est un peu différent. Mais je voudrais juste parler de, parce que tu as abordé le sujet sans approfondir, sur la prostitution. Et je prends ça comme exemple. Parce que c'est vraiment la question dans le mouvement féministe par exemple, où j'ai jamais eu autant de violence. Mais une violence terrible. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat, c'est des coups. Enfin, je veux dire, même à Toulouse, on l'a vu dans des manifs et tout ça, etc. Et c'est vrai qu'il y a deux positions. Il y a le courant du mouvement féministe considère que les prostituées sont des travailleuses du sexe. Et donc, en général, c'est un courant qui est proche du courant queer. Je veux dire, donc, qui a une vision sociale de cette question-là. Et les abolitionnistes, celles qui sont pour l'interdiction totale de la prostitution, sont plutôt, je trouve, essentialistes. Enfin, je veux dire, c'est comme une position morale, etc. Et c'est vrai que c'est quand même complexe. J'ai l'impression que là, ça se croise totalement. Et que pour moi, enfin, je veux dire, sans, enfin, je ne sais pas si Marianne a dit tout à l'heure que tu avais du mal à avoir une position, etc. Moi, je sais que sur la prostitution, j'ai changé de position plein de fois, ça dépend avec qui je discute, parce que c'est compliqué, je veux dire. Et simplement que ce dialogue est nécessaire, en général, il est souvent impossible. Donc c'est très difficile, non seulement d'avoir une position précise, mais d'avoir aussi une action réelle, quoi, je veux dire, si le mouvement est si divisé. Et je pense que c'est important quand même d'être les deux pieds dans la réalité.
Ce que tu dis là sur la prostitution, je pense que c'est un très bon exemple, parce que c'est vraiment des trucs qui pourrissent bien le milieu. Je trouve que tu es très optimiste quand tu parles qu'on a le droit de s'exprimer, de faire passer sa position dans les milieux militants. Ça doit dépendre des endroits, mais je peux te garantir que là où je suis, qui n'est pas Toulouse, c'est pas du tout évident d'échapper au code linguistique et à un discours qui est... C'est pas vrai que les gens qui sont installés parce qu'ils sont plus âgés ou je sais pas quoi et qu'ils ont leur référence, ils arrivent à dire les choses comme avant. C'est pas vrai. Et pour... j'ai pas lu le texte qui a été distribué, mais si il est dit qu'il y a des choses qui vont pas dans ce qui est fait, dans ce qui est tout ça, et ben je trouve que c'est déjà très bien parce que c'est pas toujours évident qu'il y ait une reconnaissance dans ces milieux-là qu'il y a des erreurs ou des... Tant mieux. Parce que tout le monde commet des erreurs, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Mais on est vraiment dans un truc, ce qu'a dit Serge et tout, là, sur l'identité qui est vraiment le machin prédominant. Il y a tout un langage, et de ce langage-là, il y a, dans les milieux militants, il y a des gens qui tirent un pouvoir, c'est-à-dire ils sont capables, ils peuvent fermer la gueule à des gens dont le discours est jugé pas correct. C'est comme ça. Pour la prostitution, moi, je sais que quand Sarkozy, ça remonte à quelques années, voulait pénaliser, enfin, il y avait tout son projet de loi et tout, moi, je dis, mais évidemment, non. Il faut pénaliser les prostituées, sûrement pas. Il y avait des choses... Mais en fait, il y a deux réalités différentes. C'est pas la même chose, les travailleuses du sexe, les travailleurs du banque, des gens qui décident en ayant autant de choix qu'on peut avoir du choix quand il faut travailler, mais qui décident d'utiliser certaines parties de leur corps pour gagner leur vie. C'est une certaine réalité. Et ça s'accompagne d'un discours individuel, de liberté, d'affirmation de la liberté individuelle. Et puis, il y a la réalité des réseaux de prostitution faits par les mafieux et tout, au niveau international, et avec des nanas qui n'ont absolument pas le choix. Pareil pour les enfants, qui ont confisqué les papiers, et donc qui sont coincés dans ces pratiques-là. Et là, c'est vraiment deux réalités différentes. Alors, du coup, suivant, effectivement, de ce qu'on parle, moi je vais soutenir les prostituées qui vont aller dans la rue manifester contre des projets de loi qui les pénalisent et tout ça, évidemment. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi cette réalité de la prostitution, comme on l'appelait avant, qui était la prostitution, qui était vraiment et qui n'était pas le travail du sexe avec un syndicat qui défend les intérêts. Donc on parle de deux choses différentes et qui illustrent très bien, je pense, la démarche individuel et qui correspond, qui est vraiment dans le truc de la postmodernité et avant ce que c'était classiquement la.
Tu peux pas dire. Je suis désolé. Je suis désolé sur les mouvements. Tu peux pas dire le Strass ou comment ça s'appelle, ou Cabiria ou tout ce que tu voudras, des mouvements de prostituées qui estiment être des travailleurs ou travailleuses du sexe, puisqu'il y a des mecs aussi dedans. Tu peux pas dire que ça vienne de la postmodernité Moi,
j'ai pas dit ça.
Ah pardon, c'est ce que j'avais cru entendre. Parce que moi, je me rappelle la bande d'Aoula en train d'occuper l'église à Lyon dans les années 70, tu vois.
Oui, mais là, tu n'étais pas du tout dans la même réalité. Ça n'avait rien à voir comme type de prostituée et tout. C'était pas
du c'était du luxe. Mais c'était aussi une revendication, à un moment donné, par rapport à une exploitation, où je l'ai rêvé, à ce moment-là.
Mais je vois pas le rapport.
Mais si, le rapport, si. C'est qu'il y a ce moment-là où la prostitution s'est posée en tant que rapport de boulot, dans les années 70, justement.
Oui, mais... Enfin,
ça n'a rien à voir avec l'individualisme ou le postmodernisme à ce moment-là. Donc, si tu veux,
Non. Enfin, les femmes qui se prostituaient comme ça et tout, alors tu étais dans le truc avec le Mac, le mec de la nana qui mettait au turbin sa femme, enfin qu'il y en avait plusieurs éventuellement et tout, et c'était sur un rapport qui était très différent. C'était pas une femme qui décide de gagner sa vie comme ça. En général, il y avait un truc qui était, on en a fait des chansons et tout ce qu'on veut là-dessus, sur c'était l'amour qui les guidait ou je sais pas quoi, enfin il y avait un rapport comme ça de domination, enfin ça se présentait différemment. Là, peut-être que les prostituées, elles font ça par rapport à leur mec, j'en sais rien, mais ça me paraît pas être le discours qu'on entend sur les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe. C'est des gens qui se positionnent pas de cette façon-là, il me semble.
Enfin, moi, je veux dire, c'est remonté à loin, historiquement.
Oui, mais ça me paraît pas.
Juste un truc. Donc, pas débattre de la prostitution, mais par contre, quand même, juste je trouve que c'est un peu raide. C'est un peu. C'est quand même pas à des camarades de l'OCL que je vais expliquer qu'il peut y avoir des fluctuations et qu'il n'y a pas d'un côté. Il y a bien sûr, il y a ça, c'est-à-dire il y a des raisons mafieuses, des situations difficiles. Mais qu'il peut aussi y avoir dans un mouvement, par exemple, qui se passe quelque part, des émancipations possibles, y compris pour des femmes exploitées par des réseaux mafieux. Il n'y a pas d'un côté les travailleuses du sexe qui décident toutes seules, pour des raisons diverses et variées, autant qu'on puisse être effectivement, qu'on puisse avoir le choix sur le travail, de vendre une partie de leur corps. Et de l'autre, il y a certes ça, c'est deux parties des choses, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir quand même des réflexions, éventuellement, qui peuvent avoir des points collectifs ou des points de jonction entre des réalités différentes. Il n'y a pas d'un côté les individualistes travailleuses du sexe et de l'autre côté les femmes exploitées par les réseaux mafieux.
Moi, je crois que non. Il y a celles qui ont le choix relatif, parce qu'on est dans un, et celles qui n'ont pas le choix, et qui n'ont vraiment pas le choix. J'arrive pas à comparer les deux. Non, ça ne me paraît pas de... Enfin, bon, c'est ce que je veux dire.
Ah oui, si, un truc quand même, juste,
on est en plein dans ce genre. Il y a un moment, effectivement, par rapport au mouvement tel qu'il est, au mouvement d'émancipation et
à la lutte des classes, au mouvement d'émancipation mondiale, on ne peut pas dire qu'on soit dans une phase formidable, c'est quand même clair, de progrès et d'espoir. Dans ce cadre-là, je trouve important d'essayer de ne pas se lâcher entre différents courants et je pense pas qu'un certain nombre, qu'une partie du mouvement féministe soit mes ennemis, même si éventuellement eux le pensent. Mais moi je ne le pense pas, en tout cas. Et je me dis que de toute façon, et qu'on a un certain nombre à pouvoir se côtoyer et à se revoir dans plein d'endroits, plein de lieux, et qu'on n'est pas assez nombreux pour se payer le luxe de ce jeu d'embrouilles définitives. Voilà. Et que c'est une question pour moi importante. Et je ne fais pas de l'angélisme. C'est vraiment concret.
Moi, j'ai l'impression qu'on a intérêt à s'embrouiller un peu. Parce que
à s'embrouiller un peu, d'accord. Mais pas à se fâcher.
Mais je crois qu'on a réellement besoin de remettre en cause le substrat de beaucoup de pensées qu'on a eues jusqu'à présent et de le remettre en cause à l'aune de la réalité. Voilà, vraiment.
Dans la réalité, on se
retrouve. Des nouvelles revendications, des nouvelles sensibilités individuelles qui s'intègrent complètement dans une réalité collective. Un ouvrier au XIXe siècle n'adhère pas au mouvement ouvrier comme abstraction philosophique, mais par une réalité individuelle d'exploitation, de misère humaine. Et toutes les dimensions de misère humaine qui s'expriment ne sont pas que des réalités individuelles, ce sont des réalités, des ressentis importants intégrés au collectif. Et ça, on a foutrement besoin de remettre en question. Et ça ne peut pas se faire sans une discussion conflictuelle, en principe. Après, le conflit, la façon de... Il y a la façon du copain qui discute avec nous, il y a la façon de claquer la gueule au mec, et puis la façon de prendre la porte, de façon différente. On a intérêt à arriver à discuter. Et le conflit, oui. Ta gueule.
Peut-être quelques éléments qui sont aujourd'hui un peu enfouis dans les confins de l'oubli du passé. Il y avait une formule assez célèbre, au-delà de la première internationale, qui disait qu'avait intérêt, en gros, à se regrouper, tous, celles et ceux, à l'époque c'était dit tous ceux, parce que, voilà, bon, il y avait du masculinisme, qui s'étaient en révolte contre toute exploitation et toute oppression, citation, hein, en révolte entre toute exploitation et toute oppression. Ce qui est quand même assez large et qui pose une question de principe qui n'est pas une question personnelle. Il se trouve que l'évolution historique fait qu'aujourd'hui, la mode, il faut le dire, est au renvoi à soi-même, aux croyances personnelles, éventuellement même à beaucoup de débats très très exagérés, ou une absence de débat, et au détriment de ce qui était initialement venant des individus plus partageables et qui devrait être plus partagé, mais qui ne l'est pas, qui est la lutte collective, l'action collective. Et on est toujours entre les deux, parce qu'il ne peut pas y avoir d'action collective sans conscience, partagée ou partageable, et donc ça veut dire sans des individualités qui peut-être se dépassent un petit peu, voilà. Dans toutes leurs dimensions, l'exposé a évoqué une dimension, mais il y en a plein d'autres. Et d'un autre côté, il devrait peut-être y avoir une libération personnelle, etc., etc., qui empêcherait ou qui ne pourrait s'affranchir de bagarres collectives. Bon. Non, on est en Europe, effectivement, ça c'est un débat d'aujourd'hui. Il y a d'autres pays, Amérique du Sud ou ailleurs sur la planète, Chine, où les choses se posent totalement différemment. C'est la réalité matérielle qui met en évidence des besoins de faire collectif. Et c'est vrai que, à ce moment-là, les étiquettes, le rejet, les attitudes personnelles, hein, du coup, sont surpassées par de l'action collective, en général. Quand il y a un besoin partagé, souvent, ça devient partageable. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui, pour vous dévoiler la clé de ce que je pense, le patronat est à l'initiative de segmenter tout, quoi, diviser pour régner, hein, voilà, faire croire qu'il peut y avoir des oasis en terrain hostile, mais on n'est pas loin de ça. Et donc, la nécessité, et c'est probablement ce que veut dire le bouquin, qui n'est pas du tout opposé au contenu des tracts que j'ai survolés et à l'intervention qui a été faite, à mon sens, pas du tout, c'est le besoin, c'est vraiment d'être dans une dynamique où on propose des choses partageables et on aboutit à des choses partagées. Parce que sinon, il n'y a pas d'action. Et donc, ça veut dire que c'est le statu quo, les dominants, qui vont continuer à dominer sans fin. Bon.
Je suis d'accord avec les deux dernières interventions.
Elle est d'accord avec les deux derniers trucs. Ouais.
Et j'ai faim. Et je veux boire.
On va pas tarder à fermer, vous voulez continuer un peu, je sais pas. Enfin, fermer. D'arrêter le débat. Oui, bah, quand vous voulez. Je vais aller boire un peu.